Aujourd'hui, la masterclass de Paul Auster avec Arnaud Laporte.
Nous ouvrons la masterclass de Paul Auster ici au Havre, dans le cadre du festival Le Goût des Autres. Le principe de la collection, je le rappelle, est le suivant, c'est de donner à essayer de comprendre comment un artiste travaille très concrètement pour essayer d'approcher les conditions d'exercice de son art. Alors peut-être quand même, avant de débuter véritablement, rappeler que vos écrits couvrent à peu près tous les champs de l'écriture, Paul Auster, roman, poésie, essai, théâtre, nouvelle, essai, scénario. Bon, vous êtes également cinéaste, mais qu'est-ce qui est venu en premier ? Le goût du baseball ou le goût de la lecture ?
Ah, je crois baseball d'abord, mais en même temps, quand même, les livres. Je viens d'une famille qui n'était pas très éduquée. Ni mon père, ni ma mère est allé à l'université. Je vivais dans une maison sans beaucoup de livres. Mais pour une raison ou une autre, j'aimais lire. Et on avait une bibliothèque publique dans notre ville, petite ville à New Jersey. Et je suis allé toutes les semaines pour emprunter les livres. Alors, on joue au baseball pendant le temps chaud de l'année, mais on peut lire 12 mois par an. Alors, finalement, j'ai beaucoup plus lu que joué au baseball. Oui.
Et puis, il y a eu la France très tôt, une autre de vos passions. Le premier séjour, 18 ans, 19 ans ?
18 ans, oui.
Pourquoi ce pays ?
C'est que j'ai étudié le français à l'école. On avait un choix, ou latin ou français. On avait 12 ou 13 ans et j'ai choisi français. Alors, quand j'avais 18 ans, c'était la fin du lycée, et voyager en Europe à l'époque était pas cher du tout. Il y avait même un livre qui était une sorte de Bible pour des jeunes voyageurs des États-Unis en Europe. Europe on $5 a day. Europe à $5 par jour. Et c'était possible de le faire. C'est l'équivalent maintenant de 4 euros par jour. Imaginez. Hein? Alors je suis allé en Europe. La plupart du temps de cet été de 65, j'étais en France. Mais aussi, j'ai voyagé en Italie, en Espagne, et à la fin, à Dublin, en Irlande, parce que je lisais James Joyce, Ulysse, cet été, et j'étais si ému par les livres, je voulais voir Dublin. Mais à Paris, cet été-là, j'ai fait des aventures, des expériences inoubliables. Et à partir de ça, je suis tombé amoureux de la France et de la ville de Paris.
Je crois que c'est assez réciproque comme amour. C'est à Paris que vous passez aussi le concours de l'IDEC.
Non, je n'ai jamais fait.
Ah, c'est faux ça ?
Non, j'avais...
L'IDEC, c'est l'école de cinéma, maintenant FEMIS.
Oui, j'avais une idée peut-être d'essayer, mais j'ai écrit pour le... je ne sais pas, des applications, je ne sais pas le terme.
Vous avez fait un formulaire de...
C'était si
tentative d'admission.
C'était si long et compliqué que j'ai dit, non, je ne peux pas faire ça.
Il y avait trois tours à l'époque à l'IDEC.
Oui, non, ce n'était pas possible. Et je crois même pour un étranger, c'était pas possible. C'est drôle que plus tard, beaucoup plus tard, je suis devenu ami avec le cinéaste Wim Wenders, qui est, je crois, 2 ans plus âgé que moi. Alors, quand j'étais là pour la deuxième fois à Paris, j'avais 20 ans, et Wim avait 22 ans, et il a dit que lui aussi, il voulait aller à l'IDEC, et il a raté l'examen, et moi, j'ai pas même essayé. Et voilà. C'est pas mal comme cinéaste, quand même.
Hein. Pas mal.
Oui.
Si vous aviez pu, si vous étiez rentré, les six, ça vous intéresse toujours, Paul Auster, si vous aviez fait une école de cinéma, devenu cinéaste, est-ce qu'aujourd'hui vous seriez un cinéaste qui écrit parfois des livres ?
Ah, c'est une bonne question, mais qui sait ? La chose aussi, il y avait un autre élément dans cette décision de ne pas essayer d'y aller, c'est qu'à l'époque, j'étais timide, mais une timidité atroce. Je ne pouvais pas parler devant 3 ou 4 personnes inconnues. Et je me suis dit, si je ne peux pas parler, comment je peux être metteur en scène des films? Alors j'ai abandonné l'idée. Je crois l'écrire toute seule, c'était plus... c'est pour moi, surtout à l'époque.
Mais ça pose quand même la question de la vocation, Paul Auster. Est-ce que vous croyez que ça existe, que vous étiez fait pour écrire plutôt que fait pour faire des films, même si vous en avez fait depuis?
Je ne sais pas. C'est difficile à répondre à ça. Mais je sais que, sauf ce petit moment où je pensais peut-être devenir cinéaste, j'ai décidé, vers l'âge de 15-16 ans, de devenir écrivain. C'était la seule ambition que j'avais. Et même le cinéma, c'est une sorte à joindre à ça, c'est raconter les histoires quand même. Et je n'ai jamais voulu faire autre chose. Et est-ce que c'est une vocation? Peut-être, peut-être.
Mais à ce moment-là, vers 15-16 ans, est-ce qu'il y a un jour, peut-être pas une révélation comme ça, mais quand même où vous vous êtes dit, je suis ou je serai écrivain?
Non, c'est que c'était... Ça, c'était le moment de la révélation, mais il y avait des antécédents à ça. C'est-à-dire que j'ai commencé à écrire des poèmes et des récits quand j'avais 9 ans, et je ne sais pas pourquoi.
Vous les avez gardés?
Oh, heureusement pas. Mais je me souviens très bien une journée en avril. C'était un samedi matin, et pas d'école aux États-Unis, un samedi. Et je me levais le matin et je marchais. Et c'était le premier jour du printemps. L'air était doux. Et j'étais rempli d'une joie, d'un bonheur de dire au revoir à l'hiver. Et tout d'un coup, j'avais une inspiration d'écrire un poème. Et je me souviens, je marchais vers le... centre de la ville où il y avait des boutiques, et j'ai acheté un petit carnet et un crayon, et puis je suis rentré dans un parc public entouré de l'herbe et des arbres, et j'ai écrit mon poème sur le printemps. Bon, même si c'était horrible, je crois que les premières lignes en anglais étaient comme quelque chose comme « Spring is here, give a cheer », des choses comme ça. C'est même pire que les cartes qu'on peut acheter. De toute façon, la sensation d'écrire m'a donné une nouvelle expérience d'être plus connecté aux choses autour de moi. C'était une sorte de révélation que je me sentais différent en écrivant que de ne pas écrire. Simplement marcher dans le parc, c'est autre expérience que écrire sur marcher dans le parc. Et cette sensation d'être entrelacé, entremêlé des choses du monde, c'était une sorte d'exaltation, peut-être. J'ai continué à écrire parce que chaque fois que je le faisais, ça m'a donné cette expérience. Alors, j'ai écrit des récits aussi très, très mauvais, inspirés par Poe et Robert Louis Stevenson quand j'avais 10, 11 ans, etc. Plus tard, c'était Sherlock Holmes que j'ai beaucoup aimé. Mais avant ça, avant l'âge de 14 ans, je crois, de toute façon, moi, je n'étais pas capable de lire des livres pour adultes. J'ai vu beaucoup de films. Le cinéma était important pour moi en même temps. Mais à l'âge de 14, tout d'un coup, je suis arrivé à une maturité d'esprit où je pouvais comprendre n'importe quel livre. Et à 15 ans, j'ai lu, comme un des Ferguson dans les livres, « Crime et châtiment » de Dostoïevski. Et ce livre m'a vraiment changé. C'était une expérience comme une explosion intérieure et extérieure à la fois. Et quand j'ai terminé le livre, que j'ai lu dans une sorte de fièvre, d'excitation, je me suis dit, si un livre est ça, si un livre peut faire ça à un acteur, si un livre peut provoquer tant d'émotions et de pensées, alors écrire les romans, c'est la meilleure chose qu'on peut faire.
C'est vrai que dans votre livre 4-3-2-1, Paul Auster, Archie Ferguson, il a beaucoup d'expérience de lecture. Une fois, c'est Crime et Châtiment. Une fois, ça va être un autre livre qui va le faire pleurer. Et on lui donne aussi des listes de livres. La plus longue fait 100 livres. Est-ce qu'il faut beaucoup lire pour écrire?
Ah, je crois. C'est possible pour quelqu'un qui ne lit pas, quelqu'un qui a des expériences extraordinaires. Peut-être il ou elle peut arriver à écrire un livre, peut-être deux. Mais d'écrire pendant 50 ans sans avoir une idée de la littérature avant, je crois que ce n'est pas possible.
Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est une chose de marcher dans le parc, c'est autre chose d'écrire qu'on a marché dans le parc. Alors, ça pourrait être, est-ce qu'il faut beaucoup vivre pour écrire?
Oui, sûrement. Et c'est pour ça que c'est très rare que les jeunes arrivent à faire des choses intéressantes. Oui, il y a des exceptions, mais très, très peu dans l'histoire. Et je crois, dans la poésie, les jeunes peuvent arriver plus vite que dans le roman, dans la fiction. Là, c'est rare que quelqu'un écrit un bon roman avant l'âge de 26-27 ans. Encore, ça arrive de temps en temps, mais dans l'histoire, non. Mais il y a des poètes de 20 ans, ou 19 ans, ou 21 ans, qui sont des génies, mais on peut compter sur une main.
Oui. Un Rimbaud, combien de Springs
j'ai ou de Keats, oui. Oui.
Alors justement, sur ces premières années d'écriture, Paul Auster, vous avez quand même beaucoup écrit avant d'être publié.
Oui.
Est-ce qu'il y a eu des moments de doute, de découragement, des moments où vous avez dit, bon, c'est pas ça que je dois faire de ma vie?
Non, cette question évoque des souvenirs assez pénibles. C'est que je ne voulais pas jamais arrêter, mais j'étais très frustré pendant une longue période. Quand j'avais 18, 19, à l'âge de l'université, j'écrivais la poésie et la fiction. Et je crois que j'ai formé l'idée pour trois romans différents dans cette période undergraduate life. J'écris peut-être 1000 pages. Et les livres étaient des versions très crues des livres que j'ai terminés plus tard, Cité de Verre, In the Country of Last Things, c'est Voyage dans la Brume, et Moon Palace. Il y avait des versions de ça, mais je n'étais pas capable d'arriver à faire un livre à ce stade de ma vie. Alors, à l'âge de 22, j'ai mis tout à côté et j'ai dit, je ne suis pas doué pour la fiction. J'avais tort. C'était mon ambition primaire, mais je n'arriverai jamais à le faire. Je vais concentrer sur la poésie. Et pendant les 8 années qui suivaient, j'écrivais les poèmes. J'ai traduit les poèmes français et j'ai écrit sur la poésie et sur les écrivains. Mais je n'ai pas écrit de la fiction. Plus tard, à l'âge de 30 à peu près, je suis arrivé à une crise dans ma vie. Pas seulement dans l'écriture, où j'étais tout à fait bloqué, mais dans mon premier mariage, qui s'écroulait, et sur le côté financier, j'étais paumé, je n'avais rien. Et pendant un an, je n'ai pas écrit. Sauf un roman policier, que j'ai fait très vite pour gagner l'argent, sous un pseudonyme. Mais c'était mon premier roman, c'est drôle, mais c'était écrit seulement pour gagner un peu de fric. Et ça n'a pas marché non plus. Je ne pouvais pas trouver un éditeur. Plus tard, c'était publié. Mais à ce moment-là, quand j'avais besoin de l'argent, ça ne va pas marcher. Bon, dans mon livre Chronique d'hiver, Winter Journal, je décris cette expérience fondamentale pour moi. C'était, j'étais invité par un ami de longue date, un peintre, qui vivait avec une femme qui était danseuse, mais maintenant chorégraphe. Et elle a composé une nouvelle pièce, et elle a fait une sorte de répétition ouverte aux amis, dans un gymnase, dans un lycée à Manhattan, à New York. Et j'étais parmi des invités, on était 30 personnes peut-être, et il y avait 8 danseurs, 4 femmes, 4 hommes, des jeunes gens très très doués. Et la pièce était merveilleuse, sans musique, c'est simplement des 8 corps qui traversaient l'espace du gymnase. Mais après 7-8 minutes, le chorégraphe a dit « Bon, arrêtez ». Elle essayait d'expliquer ce qu'elle voulait faire dans ce moment de la pièce. Et ce n'était pas que cette femme n'était pas intelligente, mais ses mots n'arrivaient pas à exprimer 10%, même 1% de la beauté de ce que je venais de voir. Et c'était étrange. Et puis, les danseurs ont recommencé. C'était un merveille. J'étais étonné. J'étais au bord des larmes. C'était si beau. Et puis, 7 minutes après, ils arrêtent et la chorégraphe commençait à parler encore. Et au fur et à mesure, pendant 1 heure et demie ou 2 heures de ça, un espace est ouvert en moi entre le monde et la parole. Et c'était comme j'ai compris finalement l'impuissance des mots en face de la réalité du monde. Et ça m'a donné une autre vague de bonheur qui a passé en moi. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'étais libéré par ça. Et tous les doutes que je traînais avec moi, tous les problèmes de l'écriture que je n'ai pas résolus, ne comptaient plus. Et le lendemain, j'ai commencé à écrire quelque chose qui n'est pas un récit ni un poème, un texte étrange qui a le titre « Espace blanc », « White Spaces ». Et j'ai travaillé pendant 2 semaines là-dessus. J'ai écrit beaucoup, beaucoup de pages. Et puis j'ai réduit. Et finalement, c'était 8 ou 9 pages. Bon, c'était janvier aux États-Unis. Il neigeait. Il faisait un froid terrible. Et je me souviens, j'ai terminé l'écriture de cet espace blanc à 2 heures du matin, un samedi soir. Et puis, je me suis couché à 7 heures du matin, c'est-à-dire 5 heures plus tard, dimanche matin, le téléphone a sonné. Alors, personne ne téléphone à 7 heures du matin, dimanche, si ce n'est pour donner des mauvaises nouvelles. Et en effet, c'était mon oncle, le frère de mon père, qui m'a téléphoné pour me dire que ce soir-là, le même soir où j'ai terminé la première bonne pièce d'écriture que j'ai faite depuis 1 an, mon père est mort, soudainement d'une crise cardiaque. Alors, une semaine après, j'ai commencé à écrire L'invention de la solitude. Et c'était le commencement de ma deuxième vie comme écrivain.
Cette vie d'écrivain, Paul Auster, elle est devenue de plus en plus riche, beaucoup de publications, une notoriété qui grandit, on en reparlera peut-être, mais au fur et à mesure des années, est-ce que vous avez mis en place des protocoles d'écriture? Est-ce qu'il y a un moment où vous savez que c'est le moment de descendre ou de monter dans votre bureau, je ne sais pas à quel étage il est de la maison, où quelque chose a mûri en vous et que l'écriture peut commencer? Ça commence sur quoi? Sur une image, sur une idée, sur un personnage?
Pour moi, c'est plutôt un ton. une sorte de rythme que j'entends dans ma tête, une musique, cadence. Il n'y a pas des mots attachés, c'est simplement le rythme. Et pour moi, chaque livre que j'ai écrit a un rythme et une musique différente que tous les autres. Et dès que j'entends cette musique et je me familiarise avec cette musique, c'est très curieux. Les faits, les choses et les personnages commencent à apparaître autour de cette musique et de danser à cette musique.
Et cette musique, pardon, vous la cherchez ou vous la laissez venir ?
Non, il faut être tout à fait ouvert et ne pas pousser les choses.
Ça ne vous angoisse pas de ne pas avoir de texte en cours, d'idée du prochain livre ?
Non, il ne faut pas. Il faut être tout à fait décontracté et ouvert. Non, sinon, on ne peut pas faire un livre. Si vous êtes trop tense, rien n'arrive. Tendu, oui. Normalement, pour écrire un roman, je n'ai pas un plan précis. J'ai une idée en général du commencement. Il faut trouver la première phrase. Tu te suis de ça. La première phrase annonce le livre et il faut capturer le ton, la musique dans cette première phrase.
Alors forcément, j'ai un exemplaire de 4-3-2-1 oui. Sous les yeux. J'ai quand même envie de lire cette première phrase.
C'est une longue première phrase. Bah, allez-y.
C'est vrai qu'elle est très longue. Selon la légende familiale, le grand-père de Ferguson serait parti à pied de sa ville natale de Minsk avec 100 roubles cousus dans la doublure de sa veste. Il aurait fait route vers l'ouest jusqu'à Hambourg en passant par Varsovie et Berlin et il aurait acheté un billet sur un bateau baptisé l'impératrice de Chine qui traversa l'Atlantique à travers de rudes tempêtes hivernales pour entrer dans le port de New York le premier jour du XXe siècle.
Oui. Oui, mais c'est une longue phrase.
1016 pages qui suivent.
Oui, 1016 pages.
Le ton était bien donné, là.
Oui, ce livre très long est composé des phrases très longues aussi. Et j'espère avec une propulsion qui est comme une danse et qui un tourbillon de paroles qui projette le lecteur en avant, toujours en avant, en avant. Et une phrase très courte, là, ça ne suffit pas. Par exemple, le livre des illusions commence « Everyone thought he was dead ».
Tout le monde croyait qu'il était mort.
Oui, et ça, point. Et ça, c'était bon pour ce livre-là, mais pas pour ce livre-ci.
Mais pour 4-3-2-1, donc avec cette première phrase, Paul Auster, ça veut dire que c'est ce qui vous donne le rythme, la musicalité, et qu'ensuite... Vous écrivez en fonction de cette première page, parce que ce livre-là, pour quand même en dire deux mots, raconte quatre destins possibles du même personnage,
oui.
D'où le titre 4-3-2-1, sauf que vous présentez la première section, quatre moments de la vie d'Archie Ferguson, la deuxième partie, quatre autres, la suite. Donc il y a une construction qui est un peu troublante pour le lecteur.
Ce sont des cycles.
Ce sont des cycles de des temporels. Cycles.
Alors le livre est composé avec le premier chapitre, c'est 1,0, c'est une sorte de
genèse,
prologue, ouais. Qui raconte comment les parents de Ferguson sont rencontrés, se mariés, et le chapitre termine avec la naissance de Archie Ferguson. Et puis, on commence les cycles 1,1, 1,2, 3, 4, et puis 2,1, etc. C'est une rotation des histoires. Et les garçons se distinguent de l'un de l'autre assez vite, je crois. Et si on lit attentivement, je crois, c'est pas difficile à suivre les quatre histoires différentes. Et aussi, quand je termine un chapitre et je commence la prochaine... Je fais une sorte d'allusion à ce qui s'est passé avant, pour ne pas oublier. Et très peu de gens, et le livre est sorti depuis un an maintenant en anglais, et j'ai parlé avec beaucoup de gens qui ont lu, très peu ont dit qu'ils étaient confus. Mais j'ai travaillé avec mon éditeur à New York de faire une description du livre sur le The jacket flap. Ouais, qu'est-ce que c'est le...
En France, c'est la quatrième de couverture. Quatrième, en l'occurrence, oui. Le fait est que chez Actes Sud, c'est sur la,
oui.
le rabat de couverture. Oui. Moi, je ne lis jamais ça.
Exactement. Il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas ça. Et alors, ça aide, je crois,
j'étais surpris.
Éviter les problèmes.
Ça, c'est mon histoire. Mais bon, ça nous permet, Paul Auster, en tout cas, de parler de la question de la forme. Parce que sur un livre aussi grand, il y a beaucoup de choses... qui sont caractéristiques de votre travail. Alors, c'est un bon exemple que ce 4-3-2-1. Plusieurs exemples. Par exemple, page 114 dans l'édition française, tout d'un coup, il y a une introduction de dialogue entre Archie et sa mère, comme on pourrait le lire dans une pièce de théâtre. C'est très court, c'est comme un éclat, ça ne reviendra plus ailleurs. Pourquoi l'écrivain Paul Auster se dit à ce moment-là, je vais faire une... Mais alors vraiment, minuscule, dramatique.
C'était quoi 114, je ne sais pas.
Il n'y a qu'une fois où il y a ce passage, pièce de théâtre.
Ah oui, je me souviens. Bon, il parle d'un sujet, c'est la sœur de sa mère est mariée avec quelqu'un qui écrit des biographies. Et Ferguson, qui a 9 ans, veut lire un de ses livres, et la mère dit, je crois que c'est un peu trop difficile pour toi, c'est ton âge. Et je ne voulais pas faire toute cette, les courtoisies du roman normal et simplement le dialogue. Alors je l'ai mis comme une pièce et je l'ai fait. J'ai fait ça de temps en temps dans les autres livres. Et c'est aussi, ça varie le ton. Je crois qu'il ne faut pas faire cette musique dont je parlais. C'est pas une musique constante. Il y a des passages vite, des passages lentes. Il y a toutes les possibilités de ce qui est dans la musique. Et parfois, il faut prolonger les choses. Parfois, il faut sauter au-dessus les choses. Et c'est pas pour déstabiliser le lecteur, mais de ne pas faire dormir le lecteur.
Alors, s'il dort, il rate des choses aussi, Paul Auster, le lecteur, parce qu'il y a aussi des renvois discrets dans ce livre-ci, 4-3-2-1. Par exemple, comme il y a plusieurs vies, je vous donnerai pas le numéro de page, mais à un moment, c'est le cambriolage du magasin du père qui dévorait vivant le père d'Archie, mais plus loin, c'est le feu qui le dévora vivant. Cette même expression, on la retrouve à plusieurs dizaines de pages d'écart. Vous avez choisi de... C'est quoi ? C'est d'envoyer une coda pour rester dans le domaine musical ?
C'est possible. Vous savez que la traduction et l'original sont un peu différents. Alors, je ne peux pas rappeler ce que c'est en anglais exactement maintenant, mais il y a des répétitions et c'est exprès. C'est, et par exemple aussi, la première phrase première clause, on dit, selon la légende familiale. Alors, même si c'est un livre qui est basé sur la soi-disant réalité de la vie, il y a un côté mythique et légende de cette histoire aussi. Et même dans le passage, après Ferguson II est tué dans cet orage, les dieux se taisaient. Les dieux apparaissent de temps en temps dans le livre. Il y a aussi The Book of Terrestrial Life, c'est-à-dire...
Le livre de la vie terrestre.
Oui, comme s'il existe quelque part un livre qui contient tout l'histoire de l'humanité et à chaque instant de l'humanité.
C'est écrit là-haut, hein, c'est Jacques le Fataliste, dans le grand rouleau.
Oui, exactement. Alors, il y a ces deux côtés du livre. Le côté fantastique et aussi très ancré dans la terre.
Mais un livre comme ce dernier livre en date, Paul Auster, 4-3-2-1, il permet aussi de jouer avec différents types de registres. Il y a même aussi un texte dans le texte, une nouvelle avec les Hank et Frank, c'est la paire de chaussures du policier. Il y a non seulement ce texte qui est donc écrit par un des Archie Ferguson, mais aussi il y a le commentaire du texte.
Oui.
Vous êtes amusé à faire cela.
Oui, alors Ferguson 4, c'est le garçon qui veut être écrivain, romancier, un jour. Alors, il écrit un récit quand il a 14 ans. J'ai réfléchi beaucoup sur qu'est-ce qu'un garçon comme ça, assez précoce, assez intelligent, assez doué, qu'est-ce qu'il va écrire à l'âge de 14 ans? Alors, j'ai trouvé cette histoire quelque part en moi sur une paire de chaussures. Ce sont des personnages principaux du récit. Hank et Frank. Hank et Frank. Toutes les chaussures dans le récit ont des noms rimés. Et je ne voulais pas, parce que même je ne pouvais pas exactement reproduire la prose d'un garçon de 14 ans. Je fais une sorte de description de l'histoire dans la prose d'un adulte. Plus tard, quand Ferguson a 18 ans, 19 ans, ce Ferguson 4, je donne les exemples de ses écrits. Mais les deux extraits, c'est drôle. C'est moi qui ai écrit ces choses à l'âge de 19 ans, des choses jamais publiées. C'était des vraies choses écrites par quelqu'un de son âge. Alors, je pouvais mettre ça dans le livre.
Voilà une information importante, Paul Auster. Ouais. Pour poursuivre cette masterclass de France Culture qu'on enregistre ici au Havre, dans le festival Le Goût des Autres, tout à l'heure j'évoquais l'endroit où vous travaillez, mais est-ce que où il y a des rituels, est-ce qu'il y a des horaires, est-ce qu'il y a un lieu, est-ce qu'il y a besoin d'éléments extérieurs?
Écrire un roman, c'est un long processus. C'est comme courir un marathon. Alors, il ne faut pas courir trop vite parce qu'on va s'épuiser trop vite, trop tôt. Alors, il faut, pour moi, des heures régulières. Je me lève assez tôt le matin, disons 7h, 7h30. Et puis, je vais dans la salle à manger et je prends un pot de thé, je lis le journal, je mange un toast. Et puis, chez moi, c'est en bas, la chambre où je travaille. Et je commence vers 9h et c'est une journée de travail, 9h à 5h, plus ou moins ça, avec une interruption dans le milieu pour un sandwich et peut-être une promenade dans le quartier. Et c'est comme ça que j'écris. Et à la fin d'une journée de 8 heures de travail, je suis vraiment fatigué, physiquement et mentalement, comme si j'étais dans un jeu de basket pendant toute la journée. Et puis, j'ai découvert que dès que j'arrête une journée de travail, je fais mon mieux de ne pas penser au livre. Parce que je crois que l'inconscient travaille aussi. Et si on le laisse à côté, des choses opèrent en vous quand même. Et aussi, le sommeil aide aussi. Je peux dormir avec des problèmes non résolus et quand je me lève le matin, je connais la solution. C'est curieux, mais ça marche comme ça.
Mais est-ce qu'ils viennent aussi dans vos rêves, vos personnages?
Non, je crois pas. Je crois que j'ai jamais rêvé d'un roman que j'écrivais. Peut-être une ou deux fois, mais pas d'une manière importante.
Et ensuite, Paul Auster, est-ce qu'il y a un premier jet, une première version? Et après, il s'agit, comme vous le disiez, pour un de ses premiers textes importants, de passer de 100 pages à 8 pages. Est-ce qu'il faut beaucoup reprendre,
non,
beaucoup réécrire?
Non, non. Pour moi, c'est une méthode assez bizarre. J'écris un roman paragraphe par paragraphe. Alors, je commence avec un stylo et un carnet. Et j'écris à la main la paragraphe. La paragraphe peut être 5 lignes ou 20 lignes ou 100 lignes, ça dépend. Mais je travaille là-dessous. Je corrige, je fais une deuxième version, une troisième version, même une quatrième version. Et j'écris avec une main assez petite et ça devient presque illisible. Alors dès que c'est plus ou moins fini, je tourne à ma machine à écrire et je tape le paragraphe à la machine. Et puis, je peux le lire clairement et je l'attaque encore avec le stylo. Je fais des changements, tout ce que je peux faire à ce moment-là. Et puis, je mets ces pages dans un tas avec la tapisserie et je retourne au carnet pour écrire la prochaine paragraphe. Et je commence avec la première phrase et puis la deuxième jusqu'à la fin. Je ne saute pas entre le milieu, la fin et le commencement parce que j'invente le livre quand je l'écris. C'est beaucoup improvisé. Il y a des jours où je descends dans cette chambre et je ne sais pas exactement ce que je vais écrire ce jour-là. Mais les choses, normalement, elles viennent et je les suis. C'est curieux. Tout ça, c'est curieux. Et je crois que les romanciers travaillent dans des manières très différentes. Ouais.
Mais alors, si vous procédez de cette façon, Paul Auster, comment est-ce que vous savez qu'un texte, un roman est terminé?
C'est qu'il y a deux raisons. D'abord, je ne peux plus voir quoi corriger dans les phrases. Je ne peux pas voir quoi ajouter ou quoi supprimer. Et puis, il y a la réponse de Siri, ma femme. C'est ma lectrice primaire et finalement la seule en qui j'ai confiance. Et au fur et à mesure, quand j'écris un livre, tous les 30 pages, 40 pages, 25 pages, je lis à haute voix à Siri. Elle me donne sa réponse initiale, comme ça, elle dit, non, je crois que cette phrase ne marche pas. Ah, il faut que tu ajoutes un peu là. Et elle a toujours raison. Après 37 ans, elle n'a jamais eu tort. Quand elle dit ça ne marche pas, elle a raison. Alors je fais des corrections. Après le manuscrit est terminé, je lui donne le texte écrit. Elle passe 2, 3, 4 jours en lisant et encore elle me donne des commentaires. À ce moment-là, c'est très peu parce qu'on a déjà eu des conversations avant. Et si elle dit bon, c'est bon à aller, on dit ça, c'est bon à aller, alors c'est fini.
Et l'éditeur, il n'a rien à dire du coup?
Ils disent des choses de temps en temps.
Moins intéressantes que celles-là.
Mais il faut dire, en 30 ans, 35 ans, j'avais eu peut-être une dizaine d'éditeurs différents. Mais Siri est constante, elle est toujours là et j'ai beaucoup plus de confiance en elle parce que d'abord elle est plus intelligente que tous les éditeurs et elle-même, je vis avec une vraie génie. Elle est si intelligente.
Ça vous fait un point commun en même temps?
Non, je ne crois pas. Non, elle est vraiment extraordinaire et sans elle, chaque écrivain a besoin d'un lecteur comme ça, une amie, une époux, une épouse, quelqu'un qui est pour le travail que vous faites, mais qui a la confiance de dire des choses négatives pour améliorer le travail. Pas pour attaquer, mais pour améliorer.
Est-ce qu'il y a des textes, des romans que vous avez entrepris, Paul Auster, que vous avez abandonnés ou ça n'a pas marché?
Oui. Deux fois, j'ai commencé un roman. Une fois, je crois, j'ai écrit 60 ou 80 pages et ça n'a pas marché. Je l'ai mis à côté. Et il y a peut-être 5 ans... Après, j'ai terminé Sunset Park, mon dernier roman avant ça. J'ai pris une pause de 3, 4, 5 mois, j'oublie, et j'ai commencé une autre chose. Et après 100 pages, j'ai vu que c'était pas bon. Je l'ai jeté. Et j'ai écrit, au lieu d'un roman, chronique d'hiver et excursion dans la zone intérieure. Report from the interior. Ça, des deux livres-là, qui sont des jumeaux, c'est la première fois que j'ai examiné de près mon enfance et les souvenirs de mon enfance. Et je crois que, sans avoir l'intention, mais à cause de ces deux livres, j'ai labouré le terrain qui a fait possible ce roman. Parce que je voulais continuer dans le domaine de fiction, d'explorer ce vaste pays de l'enfance.
Oui, ce qui veut dire, ça répond à la question suivante, Paul Auster, qu'un livre, il se fait aussi en réaction au précédent.
Oui.
Soit qu'il creuse un sillon, soit qu'il soit aussi passé à autre chose.
Exactement. Je vois une sorte d'alternance dans mon travail à travers les années. Les livres assez complexes, suivis par les livres assez simples, c'est-à-dire directs, avec une ligne et pas 20 lignes. Et je crois que cette alternance, c'est nécessaire pour ma santé mentale.
Oui. Pour autant, Paul Auster, à vous lire, et c'est le cas évidemment encore une fois dans ce dernier livre, on peut faire la liste de vos obsessions. Et remarquez évidemment que, assez naturellement, vous ne cessez de les interroger depuis toutes ces années. La lecture, l'écriture, le cinéma, la France, le sexe, Dieu ou les dieux.
Et les États-Unis
la
aussi.
La mer, le baseball, le père, la musique, la mort. Bon, il y en aurait pour plusieurs vies d'écrivains. Mais qu'est-ce qui fait, au fond, qu'il y a toujours, ou en tout cas pour l'instant, un autre livre après le précédent? Qu'est-ce qui fait que vous continuez à écrire, finalement? Parce que c'est quand même une activité curieuse.
Chaque fois que j'écris un livre, je pense que c'est peut-être le dernier que j'allais écrire. Parce que qui sait s'il y a autre chose qui va venir. Jusqu'ici, il y avait toujours un autre projet qui a annoncé sa présence à moi. Et je l'ai fait, sauf deux fois, échec total. Mais les autres fois, j'ai terminé les livres. Bien sûr, je fais des notes parfois. J'ai des idées soudaines qui viennent à l'esprit. Et je note un paragraphe, des idées pour des récits ou des romans à futurs que je n'ai jamais écrit. J'ai un tas de
Vous êtes parfois puisé dedans pour écrire un nouveau livre? Est-ce que vous êtes parfois allé chercher
parfois
dans ces notes?
Parfois, je feuillette ces notes anciennes pour voir des choses. Et de temps en temps, je tire
ça
les choses.
Ça fait venir la musique, alors, quand
oui.
même, là.
Oui.
La musique arrive de ces notes, parfois.
Oui, c'est parfois... Oh, par exemple, on parlait de Wim Wenders avant. Je crois que c'était 1990. Wim a proposé à moi de collaborer sur un film. Et il avait une idée très intéressante, et ça m'a intéressé beaucoup. Il aime beaucoup Dashiell Hammett, l'écrivain des romans de crime américain. Et dans le plus célèbre, le Maltese Falcon, c'est quoi?
Faucon maltais.
Oui, c'est ça. Il y a une petite parabole qui est racontée sur un certain monsieur Flitcraft. C'est l'histoire d'un homme qui disparaît sans raison. Il a dit, peut-être on peut faire une histoire basée sur cet épisode. Pas le même, pas Flitcraft, mais inspiré par ça. Alors, j'ai écrit, qu'est-ce qu'on dit, a treatment en anglais.
Un traitement
pour
français, oui.
Une vingtaine de pages de cette histoire pour le film. On avait des grandes espérances. Et puis, l'homme qui allait nous donner l'argent pour le faire est mort. Et on n'a pas trouvé l'argent et le projet était fini. Et j'avais mis ces 20 pages dans un tiroir. Mais 10 ans plus tard, ou 12 ans plus tard, quand j'écrivais Oracle Night, la nuit de l'oracle, j'ai regardé ces pages. Et cette histoire que j'ai écrite avant est devenue l'histoire dans le roman, l'histoire que le personnage raconte. Alors, finalement, rien n'est perdu.
Une autre question assez récurrente dans ces masterclass de France Culture, Paul Auster, mais pas toujours évident d'y répondre. Est-ce que vous pensez qu'on progresse dans son art ? Est-ce que vous êtes un meilleur écrivain aujourd'hui que vous ne l'étiez ?
J'ai pas ce sentiment. Je ne sais pas. Chaque livre est un nouveau livre. Et je n'ai jamais écrit ce livre avant. Alors, en écrivant le livre, il faut que je m'enseigne comment l'écrire. Et tout le travail du passé ne compte pas. Parce que je suis débutant chaque fois que je commence un livre. Alors, je sais que j'ai changé pendant les années, mais est-ce que c'est meilleur ou pire? Je ne sais pas.
Justement, est-ce que vous aimeriez, comme certains peintres ont pu le faire, retoucher une de vos œuvres, reprendre un ancien texte et le retravailler avec ce que vous êtes aujourd'hui?
Je crois que chaque écrivain est tenté à faire ça, mais je crois que ce n'est pas une bonne idée. Parce que de réécrire quelque chose que j'ai écrit à 30 ans, quand j'ai 70 ans, je crois que ça n'a aucun sens.
Le succès, la reconnaissance, Paul Auster, c'est les prix littéraires. Ça a changé quoi pour vous ?
Rien. Vraiment, tout ça, c'est de l'extérieur. J'ai beaucoup souffert, j'étais pauvre pendant des années, j'étais refusé par les éditeurs et j'ai continué à écrire. Quand j'avais à peu près 39-40 ans, où les choses allaient mieux sur le plan pratique, c'est-à-dire d'être édité, de gagner un peu d'argent. Mais en moi, l'intérieur reste le même. Et tout l'extérieur ne compte pas beaucoup, vraiment. C'est comme un prix est donné à quelqu'un d'autre. C'est pas vraiment moi. C'est mes livres, mais c'est pas moi. Et c'est pas le moi qui va, j'espère, écrire un autre livre.
Mais quand vous vous promenez dans le monde, vous voyez qu'il y a des, comme ici au Havre, une salle pleine de gens, et j'imagine qu'il y en aurait d'autres qui auraient voulu rentrer pour vous écouter, savoir que vous avez des lecteurs dans le monde entier. Vous y pensez de quelle façon à vos lecteurs? Est-ce qu'il y a un moment où vous y pensez quand vous écrivez, ou est-ce que c'est vraiment
non,
quelque chose auquel il ne faut pas penser?
Non, je ne pense pas à ça. La seule chose que je pense, je vois tous ces gens-là, c'est que j'aurais aimé si mes parents auraient pu voir ça. Parce que tous les deux sont morts avant que je faisais tout ça devant les lecteurs. Mmh. Ouais.
J'imagine, d'ailleurs, à propos des débuts, Paul Auster, que beaucoup d'apprentis écrivains vous écrivent, vous envoient des textes. Est-ce que vous leur donnez le conseil d'Edgar Poe, qui figure à nouveau dans 4-3-2-1 ? Soyez audacieux, lisez beaucoup, écrivez beaucoup, publiez peu, tenez-vous à l'écart des petits esprits et n'ayez peur de rien.
Oui, c'est des bons conseils, non ? En anglais, c'est plus drôle. Ah. Des petits esprits. En anglais, il a dit « Stay aloof from the little wits ». C'est très, très fin et c'est très original comme phrase, « the little wits », des petits esprits, mais c'est exprimé d'une manière merveilleuse. Bon, quand des jeunes, je plaisante un peu, ils me disent « bon, je veux être écrivain, vous avez des conseils ?» Et je dis « ne le fais pas. C'est pas une bonne idée. Parce que seulement si vous voulez être pauvre, inconnu et seul pendant toute votre vie, alors écrivez. Alors, si quelqu'un suit mes conseils, cette personne n'est pas née pour être écrivain. Et si le jeune dit, non, mais je suis pas d'accord, je vais le faire, je dis, bon, allez-y, bonne chance.
Vous avez essayé de suivre vous-même ces conseils d'Edgar Poe ?
Oui, plus ou moins, plus ou moins.
Qu'est-ce qui serait le moins alors ? Qu'est-ce que vous avez le moins suivi comme conseil ?
Parce que j'ai publié...
Trop ?
Pas trop, mais
beaucoup.
Beaucoup parce que j'ai beaucoup écrit. Lentement, tout est écrit lentement, mais régulièrement. Et c'est incroyable ce qu'on peut produire si on continue à travailler une page par jour, c'est 300 pages par an, c'est beaucoup.
Il faut avoir peur de rien, en effet, mais oui. Et puis vous parliez du fait qu'il y a l'écriture romanesque, mais il y a aussi les essais, la poésie. Qu'est-ce qui fait que finalement, et je ne vous l'avais pas demandé avant, Paul Auster, j'avais un peu oublié du coup. Qu'est-ce qui fait que vous choisissez une forme plutôt qu'une autre? Qu'est-ce qui fait que ce que vous allez écrire doit être de la poésie, ou doit être un essai, ou doit être un roman?
J'ai fait ces choses à des moments différents de ma vie. Par exemple, j'ai fait beaucoup de traductions, mais j'étais jeune. J'avais 20 ans, 25 ans, et pas beaucoup après. J'ai fait beaucoup d'essais, mais aussi, c'était plutôt dans la vingtaine. Hein, on dit ça?
Dans la vingtaine.
Dans la vingtaine. Poèmes aussi, j'ai arrêté.
Complètement?
Oui, je n'ai pas écrit un poème depuis 40 ans. Alors, l'activité d'écrire de la poésie est remplacée par les romans. De temps en temps, j'écris une introduction à un livre que j'aime, des petits textes sur des écrivains que j'aime, mais c'est assez rare. Ou des petits textes politiques dans les journaux aux États-Unis. Mais en général, ce que je fais, c'est ou des romans ou des œuvres autobiographiques. Mais maintenant, pour la première fois, j'écris sur un autre écrivain. J'écris un livre sur un écrivain américain que j'aime beaucoup, que je crois personne en France ne connaît. C'était un grand écrivain du fin du 19e siècle qui s'appelle Stephen Crane. Crane est mort à l'âge de 28 ans, mais il a quand même écrit des choses extraordinaires. Le roman le plus puissant sur la guerre civile des États-Unis, The Red Badge of Courage. Je ne sais, c'est traduit en français, mais j'oublie le titre qu'on donne. Un grand poète, un grand raconteur et un grand journaliste à la fois. Et je suis dans ce livre maintenant et ça fait un grand plaisir. Et j'ai en moi déjà deux ou trois idées pour des fictions, mais il faut que je purge ce livre de mon système avant d'écrire un autre roman. Et ça, c'était un long voyage, il faut attendre avant que je commence notre fiction.
Et puis au tout début de cet entretien qui touche bientôt à sa fin, Paul Auster, on évoquait le goût du cinéma. Qu'est-ce que ça vous a apporté de finalement réaliser quand même vous-même des films?
Ah, c'était d'abord le rêve de la jeunesse de participer dans le cinéma. Et c'est ironique que je suis... finalement, je suis entré dans ce monde à cause d'avoir écrit des romans. C'est curieux. Mais et j'ai découvert que j'ai beaucoup aimé ce métier. Et c'est rare que un homme de 47 ans, j'avais cet âge-là quand j'ai commencé à faire Smoke avec Wayne Wang, peut apprendre quelque chose de nouvel dans la vie, une autre manière de travailler, de penser. Ça m'a fait beaucoup de bien moralement, et j'ai beaucoup aimé avec les autres personnes aussi, dans l'équipe de tournage et de post-production. Alors je garde des très vifs et bons souvenirs des quatre films sur lesquels j'ai travaillé.
Mais ça a changé quelque chose dans votre écriture ou pas du
tout? Non, pas du tout, non. Parce qu'écrire pour le cinéma n'a rien à voir avec les romans. C'est une autre manière de penser.
Quel plaisir vous avez eu au cinéma que vous n'avez pas en tant qu'écrivain, Paul Auster?
Simplement être avec les autres personnes. Les blagues, les jeux qu'on joue avec les autres, la camaraderie. Ça, c'était quelque chose qui m'a plu beaucoup.
Alors, le cinéma, comme la littérature, une fois que la publication est faite, donne lieu à des critiques. Est-ce que vous lisez les critiques qu'on écrit sur vos livres?
Non, plus maintenant. Quand j'étais jeune, oui. Et c'était encore Siri qui m'a appelé. Elle a dit, il faut pas. Ça n'aide à rien. Parce que le problème avec les critiques, c'est ça. Quand c'est bon, on dit, ah oui, bien sûr, il aime le livre et pourquoi pas. Et quand c'est mauvais... On est très blessé et on n'oublie pas. C'est comme des phrases qui restent en vous pendant les années. Et pourquoi se torturé pour des choses sur lesquelles on ne peut pas changer les faits. Alors, c'est mieux de ne pas regarder ni les bons ni les mauvais.
Ça sera encore ajouté à la liste des conseils, mais aux écrivains publiés ou aux artistes peut-être, ne lisez pas la critique. Et puis, pour terminer cette masterclass avec vous, Paul Auster, enregistrée ici au Havre dans le Festival Le Goût des Autres, une question qu'on pose régulièrement dans cette émission. Est-ce que vous pensez à la postérité?
Non, je ne peux pas, parce que je vois ce qui arrive aux écrivains, et c'est bizarre. Pour la plupart, les grands succès dans leur temps sont oubliés, et parfois les gens qui étaient dans les marges deviennent de plus en plus importants après. On peut pas savoir. Et si je serais mort, à quoi me sert de penser à ça? Ça n'a rien à voir avec moi qui ne serais pas sur la terre.
Donc pas d'instructions pour des publications posthumes?
J'ai pas pensé à ça jusqu'ici.
Oui. Bon, c'est mieux de pas commencer aujourd'hui alors.
Non. Je veux vivre. Je suis tellement heureux d'avoir arrivé à cet âge. Chaque matin, je me lève le matin et je dis, oh, encore une journée m'est donnée. Alors, allons-y.
Le fait, et ce, pour finir là-dessus, 4, 3, 2, 1... Il est peut-être aussi né du fait, que vous l'avez raconté déjà, que vous êtes aujourd'hui plus vieux que votre père ne l'a jamais été, puisqu'il est mort à 66 ans, et qu'une fois dépassé cet âge-là, une nouvelle vie s'ouvre pour vous, Paul Auster?
Non, c'était un moment, quelques mois, et très étrange. C'est comme j'ai passé à travers un rideau invisible dans un terrain tout à fait étrange.
Merci beaucoup, Paul Auster.
Merci.
C'était la masterclass de Paul Auster avec Arnaud Laporte. Coordination Arnaud Laporte, attaché de production Chouchane Djergaillan.